Lion Soul Hub.
Nous sommes actuellement tout en haut de la Casbah, devant la foule rassemblée. Le drapeau algérien vient d'être hissé sur un mât, tandis que l'hymne algérien était chanté. Et maintenant, des militants FLN et des soldats de l'armée de libération nationale algérienne tirent des salves d'honneur. Et maintenant, c'est à nouveau l'enthousiasme de la foule, les applaudissements, les acclamations, les cris, les slogans, les yoyos des femmes. C'est la joie qui continue pendant que sous les projecteurs, le drapeau algérien flotte maintenant en cet endroit de la Casbah.
Après 7 ans de guerre violente, en 1962, les Algériens votent oui à 99% pour leur autodétermination. Le 5 juillet, l'indépendance de l'Algérie est proclamée. On fait la fête dans tout le pays. Mais dès l'été, les militaires de l'armée de libération nationale s'opposent aux civils du GPRA, le gouvernement provisoire de la République algérienne. C'est l'armée qui prend le dessus. Elle deviendra un des piliers de la politique du pays. Autre pilier de la nation, le socialisme. En pleine guerre froide, l'État algérien se rapproche du bloc de l'Est, envoie ses cadres se former en URSS, tout en rejoignant les non-alignés. On brandit le panafricanisme et le panarabisme. L'arabe devient la langue officielle. Et enfin, on centre le projet politique autour d'un parti unique, issu du mouvement qui a obtenu l'indépendance, le Front de Libération Nationale. C'est Ahmed Ben Bella, l'un des fondateurs du FLN, qui prend la tête du pays. Mais, à peine 3 ans après l'indépendance, en 1965, un coup d'État éclate. Ben Bella est démis de ses fonctions par Wari Boumediene, son ministre de la Défense.
Un coup d'État vient par surprise de renverser le président Ben Bella. À l'aube, des éléments de l'armée obéissant au colonel Boumediene ont arrêté Ben Bella dans sa résidence. Il est accusé de haute trahison. Souvent associés dans les cérémonies populaires, Ben Bella et Boumediene, le militant et le militaire, semblaient unis. Le mystère demeure, affaire à suivre.
Le mystère, Wari Boumediene a su le cultiver. Pour moi, Wari Boumediene, c'est une photo en noir et blanc d'un homme aux sourcils froncés qui porte un burnous dans un cadre trop petit pour contenir son aura. Personne n'a jamais su qui se cachait derrière le cadre. C'est un militaire, un homme grand, mince, avec une moustache qui s'épaissit à mesure qu'il est au pouvoir. Il était à la tête de ce que l'on appelle l'armée des frontières pendant la guerre de libération. Pour beaucoup de gens en Algérie, Wari Boumediene, c'est surtout le nom de l'aéroport d'Alger. Il mène, à l'inverse, à une relation beaucoup plus directe avec cette figure de l'histoire politique algérienne. Je la retrouve à Oran, la capitale de l'Ouest.
Taxi ! Salam alaikum.
On monte dans un taxi pour aller chez elle. Sur la route, on dépasse des bus et des camionnettes pleines de supporters. C'est un jour de match à Oran pour la Ligue des Champions, version africaine. Dans la rue, ça klaxonne et ça bouchonne. Imen rigole en disant que ça n'arrive jamais. Klaxonner, ce serait un truc d'Algérois, selon elle.
Il y a la circulation, les embouteillages. Est-ce que t'entends des klaxons aussi forts qu'à Alger ?
Imen a du caractère. Elle a les cheveux châtains, des chemisiers toujours impeccables. L'histoire qu'elle va me raconter est incroyable. C'est celle de la rencontre entre son père et le président Boumediene.
Je m'appelle Imen, je suis oranaise. Je travaille dans le domaine social, et donc je travaille avec des associations. Mon père, il m'a toujours dit que j'allais faire médecine, et donc quelque part, j'ai toujours travaillé pour devenir médecin. C'était pas un choix, c'était juste « tu vas être médecin ». On te dit, quand t'es petite, que tu allais être médecin, et donc à 16 ans, quand j'ai eu mon bac, il fallait être médecin. Bien que mon père, il a fait littéraire, bien que mon père, il a lu, bien que mon père avait fait des études en sciences politiques, et donc quelque part sciences humaines, parce que ça repose sur l'humain. Et C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est d'avoir des ingénieurs. Le plus important, c'est d'avoir des médecins. Le plus important, c'est de contribuer à développer de ce pays. Et les sciences humaines, les sociologues, merci, mais non, merci. Pas trop de philosophie. Et du coup, je pense que mon père, il a toujours été non, on va avoir des ingénieurs, on va avoir des médecins, on va développer ce pays. Et donc, mon père, il vient de Tébessa, donc Chewi. Des gens avec NIF, tu vois, des résistants, ils avaient des terres à Tébessa. Et mon père, il te le dit, c'est des guerriers, c'est des résistants. Donc, il vient d'une famille pauvre. C'est un enfant qui n'a pas été élevé comme un enfant. Il a dû être un adulte très jeune. Et à un moment donné, il a 18 ans, il n'a plus d'espoir, il n'a plus de... Il veut aller à l'université, il veut faire sa vie. Il est à Tébessa où il n'y a rien. Et... Il n'y a pas d'issue. Enfin, mon père, il te dit, je ne voyais pas d'issue à cet âge. C'était dans les années 70, post-guerre. Donc, on est sous le règne de Boumediene. Il était président à cette époque-là. Et donc, mon père, il, dans un acte de désespoir, il écrit une lettre à Boumediene pour lui dire... je veux m'instruire, je veux travailler, je veux avoir une vie et je ne peux pas. Moi, un jeune Algérien, je peux pas. Soit je travaille dans l'agriculture, soit je fais un travail manuel, mais je veux pas. Je veux aller à l'école. Et il dit, j'ai pas de solution, mais voilà, j'écris cette lettre dans un acte de désespoir complet. Et on répond à sa lettre. Cette histoire de dingue, on répond à sa lettre et on lui dit bah, « Tu viens te présenter à la présidence et on va te trouver un boulot. Arrête de faire des drames. » On a compris, t'es désespéré, on a compris, arrête de faire des drames. Et gars, c'est bon. Tu veux un boulot, on va te trouver un boulot. Parce que pour lui, c'est Boumediene qui répond à sa lettre et qui lui trouve un boulot. Il était greffier au tribunal. Mon père est socialiste. Cette partie du fait qu'il soit socialiste, elle est liée à Boumediene. Parce que c'est grâce à lui qu'on peut dire que lui, il a eu sa justice sociale. Il a contribué à une justice sociale pour mon père. Il l'a aidé à avoir un boulot, à aller à l'école, à finir ses études, à faire une vie. Et du coup, cette justice sociale a fait aussi de lui, mon père, un socialiste. Et mon père, il n'est pas objectif. Hein. Mon père est très subjectif quand on parle de Boumediene. Et donc, Boumediene, c'est redistribution des richesses. Boumediene, c'est la nationalisation des industries. Boumediene, c'est des programmes de développement. Boumediene, c'est tout ça. Boumediene, c'est accès à l'éducation, l'accès à la santé qui est gratuite. Et dans la charte de la Constitution, on te dit clairement, les valeurs de ce pays sont des valeurs socialistes pures et dures, où tout le monde est, on est tous égaux. Et si ce n'était pas Boumediene, enfin, on n'aurait pas eu tout ça. Donc, la nationalisation fait émerger des nationalistes. Et mon père, c'est un nationaliste qui te dit, grâce à Boumediene, on a eu un autre genre de souveraineté, souveraineté économique et sociale. Et ça, c'était pas acquis. Et qu'il fallait travailler pour. Et qu'il fallait résister pour. Et qu'il fallait pas être juste résistant pour avoir l'indépendance de ce pays. Il fallait être résistant pour avoir une vraie indépendance de ce pays. Il te parle de Boumediene pour te dire, on t'apprend pas ça à l'école, mais tu dois savoir. Tu dois savoir.
Le sens pour moi de la démocratie, c'est d'abord la justice, d'abord la répartition équitable des richesses nationales. Il faut que les richesses nationales profitent à tous les Algériens. Pour moi, la démocratie, c'est éduquer tous les fils du pays, permettre aux fils du chômeur d'accéder au poste le plus élevé du pays. Et pour moi aussi, la démocratie, c'est une véritable justice sociale. C'est l'éducation pour tous, le pain pour tous, le livre pour tous, les soins pour tous, la dignité aussi, pour tous, pour tous, pour tous.
Aujourd'hui, est-ce que tu penses que les valeurs du socialisme et de Boumediene, elles sont toujours présentes dans la société ?
Tu peux dire ça parce qu'on reste un pays socialiste qui se dit socialiste, entre guillemets. Entre guillemets, oui. C'est un pays qui reste socialiste, c'est un pays qui prône l'égalité. Parce que tu lis dans la Constitution, on est tous égaux. En réalité, non. Le discours est une chose. Cette égalité n'a jamais existé. Cette égalité a existé à un moment donné de l'histoire où il fallait montrer qu'on a une base socialiste. Et du coup, elle a existé à une époque très momentanée. Elle a existé, mais après, cette égalité n'a jamais été envisagée parce que ceux qui nous gouvernent l'ont jamais envisagée. La richesse de ce pays n'a jamais été pour les citoyens de ce pays. Le pays, il est riche. Le pays, il a été dévalisé pendant des années. Ces richesses-là ne sont pas pour les citoyens. Quand tu vis dans un monde post-terrorisme, parce que moi, j'étais née en 92, quand ça s'est... Je suis un porte-bonheur, je parle. Quand tout s'est déclenché, l'époque de terrorisme, quand tu vis dans ce monde de guerre civile, tu sais très bien que c'est pas... Il n'y a pas de justice sociale, il n'y a pas de justice. Tu vis dans ce monde, c'est le monde dans lequel tu vis. Où il y a du sang, où les gens se battent, où les uns se disent être plus méritants que les autres, et que eux, ils ont la vérité, et de l'autre côté, nous, on a la vérité. Et de l'autre côté, il y a des gens qui souffrent entre ces deux, de si t'es pas avec nous, t'es contre nous. Quand tu vis dans ce monde, tu le sais, il n'y a pas de justice. Tu vois, en faisant médecine, quelque part, j'y ai pensé. En faisant médecine, tu te dis, ok, c'est pas mon premier choix, c'est pas mon choix, c'est des traumas d'enfance où t'as besoin de la validation de ton père, où tu vis pour cette validation. Et tu te dis, oui, je vais faire médecine, mais en même temps, tu te dis, ok, on est vécu quelque part par l'héritage, le trauma colonial, le trauma des années de la décennie noire, en ayant vécu tout ça par transmission, en ayant lu sur ce qui se passe ailleurs dans le monde, sur les inégalités, j'ai toujours pensé que je vais finir mes études de médecine et que je vais aller quelque part dans le monde pour travailler dans un dispensaire au fin fond de nulle part. Cette idée était toujours là. Peut-être fantasmée, romancisée, parce qu'on veut tous romanciser sa vie, fantasmer sa vie et dire oh, on va faire des choses, on va sauver des gens au fin fond de la brousse. Je ne vais pas dire que non. Et donc, quelque part, ça a toujours été dans ma tête que être médecin pour être médecin, c'était pas ce que je voulais faire. Être médecin, c'est ne pas juger des gens. Être médecin, c'est écouter les personnes, c'est les soigner. Et le soin, il englobe tout. C'est une approche globale de l'être humain. Tu soignes l'être humain en totalité, et donc pas juste la maladie ou des symptômes. Et donc, il y avait une idéalisation de ce que c'est être médecin, il y avait une idéalisation de ce que c'est l'hôpital, il y avait l'idéalisation de tout ça. Et donc, être confronté à la réalité... T'es un peu choquée.
Parce que la réalité, elle est comment ?
La réalité, elle est dure. La réalité, elle est qu'aujourd'hui, même si t'as accès aux soins et même si c'est gratuit, il n'y a pas de matériel à l'hôpital. Il n'y a pas de réactif. Il n'y a pas de radio. Il n'y a pas de scanner. Il n'y a pas de chimio. Il n'y a pas de médicaments de chimio. Ça se voit, ça se sent. Quand une personne qui vit avec le VIH part à l'hôpital et demande son traitement, le traitement qui est gratuit, et qu'on lui dit, en fait, il n'y a pas, il faut attendre. Sachant qu'il risque des infections nosocomiales, qu'il risque d'aggraver son état, de compliquer son état, le soin, il n'est pas gratuit pour toi. Il n'y a pas assez de budget, il n'y a pas de matériel à l'hôpital, donc tu te retrouves à la fin de la journée, aller au privé pour faire tes bilans, pour faire ton scanner, pour passer une radio, pour passer une écho. Je te retrouve aller chez un spécialiste à l'extérieur de l'hôpital et donc il y a un coût de plus. Ou tu te retrouves à errer d'un hôpital à l'autre parce qu'on te renvoie d'un hôpital à l'autre et tu erres. Mais dans tous les cas, à la fin de cette journée, tu te retrouves à payer pour avoir accès à ta santé. Donc, on finit par discriminer des personnes encore plus en situation de vulnérabilité. Et ok, on sait que c'est un pays socialiste où il dit « oui, pour nous c'est gratuit, pour tout le monde c'est gratuit », mais cette valeur n'a jamais existé vraiment. Dans la réalité du terrain, cette valeur, c'est une valeur fantasmée. En réalité, non. En réalité, même les gens. Même nous, en tant que citoyens, on perd nos valeurs petit à petit. On perd nos valeurs parce que à chaque fois que tu vas à l'hôpital, il faut que tu connaisses quelqu'un. Et donc, oui, on perd nos valeurs parce qu'on se perd dans ce monde où il faut connaître quelqu'un, où il faut avoir de l'argent. Même nous. On devient, tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un. J'appelle un ami à l'hôpital. Tu contribues à ce que l'accès à la santé ne soit pas égal pour tous. Mais en même temps, quand tu vois la solidarité au moment du Covid, quand tu vois la solidarité au moment des feux, ces valeurs sont ancrées quelque part. Ils sont là. Ils se perdent, mais de temps à autre, quand il y a une crise, on les a, parce que c'est des réflexes. On les oublie, on les perd, mais on les a. Et c'est là la valeur. La valeur, elle est basée sur la solidarité.
Masque sur la tête et gants de protection, ces bénévoles se préparent pour une nouvelle journée d'action. Tous les matins, le petit groupe se rend dans les quartiers populaires d'Alger pour sensibiliser les habitants sur l'épidémie de coronavirus, mais aussi pour apporter un peu d'aide.
C'est un devoir que nous avons, ce n'est pas un privilège ou une faveur. Il est de notre devoir de nous tenir aux côtés de notre pays en crise.
La solidarité comme rempart au virus. Le président algérien a bien promis d'allouer une aide exceptionnelle pour le combat face à l'épidémie. Mais en attendant, les initiatives citoyennes sont indispensables. Un moyen de lutter contre la faiblesse du système de santé.
Quand tu travailles dans ce secteur, toi-même, tu te retrouves dans une situation de vulnérabilité. Toi-même, tu te retrouves à travailler sur des projets où il n'y a pas de budget pour toi. Je ne fais pas de la charité, je ne fais pas de l'humanitaire. Je fais un travail social et le travail social a un coût. Donc forcément, toi-même, tu te retrouves dans une situation de vulnérabilité et tu te poses des questions. Quand tu travailles pour des associations et que tu travailles sur des projets de développement, l'idée, le résultat auquel tu t'attends, c'est le développement. Et quand tu vois comment elles luttent, ces associations, elles n'ont que le plus grand mérite, le plus grand déshonneur. Donc c'est un travail instable, dans un contexte instable, dans un contexte oppressant, dans un contexte où tu vois des journalistes être arrêtés, dans un contexte où tu vois des activistes être arrêtés, dans un contexte où tu vois des militants être arrêtés. Et tu te poses la question, est-ce que je veux continuer à travailler dans ce domaine? Oui. La réponse, elle est toute simple. À la fin de la journée, les projets sur lesquels je veux travailler, ce seraient toujours des projets de développement. J'espère pouvoir m'offrir ou me permettre ce choix.
Le monde actuel est un monde injuste. C'est un monde qui a été créé en notre absence. Aujourd'hui, nous existons et nous contestons ce monde. Ce n'est pas notre monde. Nous voulons créer un monde nouveau à laquelle nous, la dérivée du monde, participons à sa restructuration.
Dans son histoire familiale, Imen a reçu des valeurs socialistes en héritage. La solidarité est d'ailleurs toujours très ancrée dans notre société et aussi dans le fonctionnement de l'État, même s'il est défaillant. Zohor, elle, a vécu concrètement les conséquences d'un grand projet socialiste. En 1971, Boumediene nationalise les hydrocarbures. Le secteur pétrolier fournit alors des emplois aux Algériens avec sa compagnie nationale, la Sonatrach. Et depuis, des milliers d'enfants grandissent dans des bases pétrolières. En fonction des régions, ces bases sont faites de petits immeubles ou de bungalows préfabriqués où vivent les travailleurs et leurs familles. C'est là que Zohor a grandi, au pied de la raffinerie d'Arzeux, dans la région d'Oran.
Salam alaikum, Zohor.
Bonjour, moi c'est Zohor, j'ai 32 ans et je suis mère de deux enfants, Oufok et Ali. Je suis née à Arzeux en 91. Arzeux, c'est proche d'Oran. Mes parents viennent de Mostaganem. C'est pour le travail de mon père qu'on s'est retrouvés à vivre où on vit encore aujourd'hui. C'était difficile pour mes parents de trouver un logement à cette époque. En même temps, mon père essayait de quitter Mostaganem. Il est entré à la Sonatrach et il y a travaillé jusqu'à sa retraite. Quand il a démarré, ils lui ont donné ce logement dans une zone où il n'y avait presque rien. Il
n'y
avait pas de vraie mosquée, il n'y avait pas de magasin, rien. Quand tu arrives là où on vit, c'est au bord de l'autoroute. Tu trouves un panneau qui dit « zone industrielle ». C'est là qu'on vit depuis 33 ans.
C'est
des camps. On les nomme avec des chiffres. Camp 1, camp 2, camp 3. Nous, on était au camp 11. Entre nous et la zone industrielle de Sonatrach, il n'y avait qu'un mur. Quand on était petits, on jouait dans des champs. Et de là, on voyait les torches. Leur lumière éclairait toute la zone dans laquelle on vivait. Quand on montait un peu, on voyait la mer, juste devant nous. Mais c'était une zone interdite. On ne pouvait pas entrer. Mes parents étaient contents. Ils étaient très contents d'avoir une maison déjà, et en plus, une maison équipée. C'était un privilège. Et notre maison, c'était la même que celle du voisin après. Même porte, même persienne, même entrée, même carrelage, même robinet, même salle de bain. Nos voisins, ils venaient de Tizi Ouzou, de Mascara, d'Oran, de El Bayad, du Sahara. Tous les pères de famille travaillaient là. Dans le camp où on vivait, il y avait un dispensaire. Il y avait un dentiste qui venait une fois par semaine et un généraliste. Les soins étaient gratuits. Il fallait juste présenter la carte. Il y avait une carte avec la photo de mon père, la zone où il travaillait, et quand tu retournais la carte, il y avait nos noms. Donc, mes trois frères, ils avaient le droit d'être soignés gratuitement jusqu'à 18 ans. Ma sœur et moi, jusqu'à ce qu'on se marie et que notre nom change. C'était pas facile d'avoir accès aux produits du quotidien. Ma mère m'a raconté qu'au début, c'est une vieille voiture, une R4, qui passait pour vendre le sucre, le café et les médicaments. En fait, c'est là que les gens en achetaient. Il n'y avait pas de magasin. Quand je suis née, un magasin a ouvert. En même temps, quand tu es petite, dans une zone isolée, tu compares ce que tu as à ce que ton voisin a. Tu compares la télévision, les vêtements, les maisons. Et donc, en fait, tu ne vois pas ce qu'il te manque. On vivait bien. Je ne réalisais pas qu'il me manquait quelque chose, qu'on vivait isolé, qu'on n'avait pas ceci ou cela. À la rentrée, quand ils nous ont donné la liste des fournitures, on a acheté celle de Sonatrach. Papa nous a porté un gros carton pour toute l'année. Il les vendait au prix de gros, donc ça nous aidait.
Ou même papa, chaque mois, son attract met de l'eau carton.
Et puis, peu à peu, mon père, chaque mois, il recevait une boîte avec du café, du sucre et des gâteaux. Mes parents savaient qu'à cette époque, c'était difficile d'arriver à trouver ces produits. Il n'y avait nulle part où les acheter. Comme les fournitures que mon père nous ramenait, d'ailleurs. C'était les mêmes carnets pour nous que pour les voisins. Comme l'école n'était pas loin, je sortais à 10 heures, je courais jusqu'à la maison pour goûter et je revenais. On avait du pain avec de la margarine et du sucre. On avait la parabole à la maison. Et quand je regardais la télé, les dessins animés, on voyait les publicités du Choupa Choups, Nesquik. À l'époque, on pouvait passer la journée à les regarder. On en rêvait, mais on n'y avait pas accès. Quand on allait rendre visite à notre famille, à Mostaganem, on se rendait compte qu'ils vivaient dans une maison différente. Ma tante, par exemple, vivait dans un quartier de bâtiments nouveaux, Diar El
Hana.
C'était le logement de fonction de son mari qui travaillait dans une banque. Quand on allait voir la famille, il nous disait « Vous, vous êtes des enfants de Sonatrach, des enfants de l'État, comme si on vivait mieux qu'eux. » Mais en réalité, moi, l'argent que je recevais à l'Aïd, je ne pouvais rien en faire. Il fallait qu'on aille jusqu'à Mostaganem pour que je trouve une librairie où il y avait des petits jeux de cartes, comme les sept familles, par exemple. Ou des bonbons différents. Donc, on leur répondait « C'est vous qui vivez mieux que nous. » Et quand ils venaient chez nous, ils étaient contents. Ils aimaient le fait qu'on soit en sécurité. Quand tu rentres, il y a un poste de garde. Ils nous disaient, c'est sécurisé, c'est calme. Et on répondait, aujourd'hui, c'est calme. Mais reviens le jour où la pression monte dans les torches, ça fait un bruit insupportable. Ou alors, le jour où il y a une fuite d'ammoniac, qu'on ferme les portes et les fenêtres pendant 10 minutes, que le ciel est jaune. Mais eux, ils n'ont pas ce genre de problème. Vous avez des marchés, vous avez des cafés. Donc tu vois, il y avait des aspects positifs et d'autres moins bien. C'était comme ça.
Mais la belle chose GNL 1, c'est quoi? GNL 2, raffinerie.
Moi, je sais ce que veut dire GNL 1. GNL 2, raffinerie, zone industrielle.
Ou surtout l'école.
Il y a des mots comme ça qu'on connaît depuis qu'on est petit. À l'école, quand ils nous ont parlé du pétrole et de la nationalisation des hydrocarbures, ils parlaient de deux grands pôles, Arzew, là où on vivait, et Skikda. Ça nous faisait bizarre, parce que les gens de la ville ne nous connaissent pas. Quand tu regardes sur la carte, on n'apparaît même pas. Et les transports ne font pas d'arrêt pour nous. Mais d'un coup, on parle de nous en cours, dans le livre de classe. Et la partie où ils parlent de nous, il y a même une photo. Donc on se dit qu'on existe, qu'on est important. Mais en même temps, on n'existait pas.
À une quarantaine de kilomètres à l'est au Béran, en Algérie, mon petite ville, Arzew, accède aujourd'hui même au rang de grande cité industrielle. Arzew était un port de pêche, une station balnéaire, Et voici qu'elle devient le siège de la première usine de liquéfaction de gaz naturel, c'est-à-dire de méthane, au monde. Cette inauguration, ça n'est pas seulement une ville qui éclate et une nation jeune qui s'équipe, mais un événement symbolique. Grâce à l'usine d'Arzeux, le gaz du Sahara alimentera désormais les chaudières de la vieille Europe. Le gaz du Sahara prend la mer vers l'Angleterre et vers la France.
À l'école, on a commencé à étudier l'histoire. Il faut attendre la sixième année pour faire de l'histoire. Avant, tu as l'éducation civique, le sport, l'alphabet, les maths. Ensuite, l'histoire, c'est en sixième, avant d'aller au collège. C'est en sixième année que j'ai acheté un manuel d'histoire. J'avais peur de ce livre. Il y avait des images d'enfants blessés, morts, tués. C'était des images de mort. Quand j'avais des devoirs, je les faisais la journée. J'avais trop peur de les faire le soir. Je me souviens, l'école nous parlait des martyrs. Déjà, on montait, on descendait le drapeau. On chantait l'hymne national tous les jeudis et il fallait monter le drapeau. On était contents dans ces moments-là. Ensuite, on nous a raconté. On a été libérés en 62, ils nous ont colonisés longtemps. Mais la manière dont on nous racontait ça, c'était toujours joyeux. De la fierté, de la joie, de la libération. On ne nous disait pas « pauvres de nous ». C'est quand j'ai grandi que j'ai compris que oui, on a été dans la misère. Quand j'ai commencé à étudier l'architecture, les bâtiments, j'ai compris qu'on a été colonisés longtemps. En histoire, on a juste étudié la colonisation et l'indépendance. Quand la France nous a colonisés et comment elle nous a colonisés. Au collège, on a commencé à étudier la Révolution avec les détails. Mais c'était automatique. Tu as un cours, tu l'apprends, c'est tout. Il n'y avait pas de discussion. Sauf le 5 juillet ou le 1er novembre. C'était férié, tu restes à la maison et tu sais que si tu allumes la télé, il y a le film La bataille d'Alger. Ma mère est née en 62. Elle m'a dit que quand le film est sorti, après l'indépendance, tout le monde pleurait en le regardant. Elle m'a dit on a vraiment souffert de la colonisation. Parce qu'on n'avait même pas la liberté de passer d'un lieu à un autre sans présenter nos papiers. Et mon père nous en parlait aussi. Il nous disait que mon grand-père avait une bonne situation, beaucoup de biens. Il vivait dans le village où mon père est né, à Amnada. Comme il avait de l'argent, il avait acheté une calèche. Il aidait les moudjahidines avec de l'argent. Mais pour aller d'un endroit à un autre, il devait passer le poste de garde des Français, présenter ses papiers et signer. Un jour, il était sur cette route, avec ses marchandises, pour vendre du café et du sucre, et en même temps, aider les moudjahidines. Quelqu'un lui a dit, tu es signalé là-bas. Quand tu signes au poste, enfuis-toi. Mon père m'a dit, je me souviens, on était nombreux, un camion est arrivé, il nous a fait monter dedans, moi, mes frères, mes sœurs. Mon grand-père a pris ce qu'il pouvait et ils se sont enfuis jusqu'à la ville, Mostaganem. Ils sont arrivés dans la nuit.
Au point où
ils avaient tellement peur d'être arrêtés et de mourir, ils ont oublié mon oncle, qui était encore un bébé, dans le camion. Les moments où on me raconte tout ça, je comprends que c'était une catastrophe. C'est quoi ce genre de vie? Tu t'enfuis, tu laisses ta maison, tu recommences à zéro. Et du coup, je me disais que finalement, c'était pas si grave de vivre dans une zone industrielle. Dans un préfabriqué, de pas avoir de téléphone. L'essentiel, c'est d'être en sécurité. C'est pas grave s'il nous manquait des choses. Car si les anciens nous voyaient, ils nous diraient « Vous vivez bien, très bien. C'est pas grave de marcher 48 minutes, au moins il n'y a pas de poste de garde qui te demande qui tu es, tes papiers, et qui te dit de faire demi-tour, que aujourd'hui tu n'as pas le droit de passer. Maintenant, notre terre est libérée. Moi, quand je regardais le film de la bataille d'Alger, quand il y a ce moment de silence, ce moment du film, quand j'y pense, c'est extraordinaire.
C'est simple.
C'est un seul mot. Ils se taisent, ils disent, on veut l'indépendance, on veut la liberté. Il y a du bruit, ensuite ils se taisent, tu vois beaucoup de fumée, cette scène je l'oublie pas. Les Algériens sont là, l'armée française de l'autre côté, les Français demandent,
Qu'est-ce que vous voulez?
L'indépendance, partez de notre pays. Ce moment, il fait très mal. Tu te dis vraiment, Dieu merci.
Écoutez-moi. Retournez chez vous. Qu'est-ce que vous voulez ?
Je connais l'histoire que ma mère m'a racontée, celle que mon père m'a racontée, et après, les années 90, ce que mon grand frère m'a raconté. Mais est-ce que je raconterai ça à mes enfants? Est-ce que je leur dirai que quand on était dans le bus sur l'autoroute, on devait s'arrêter au barrage, et qu'un jour ma mère avait oublié sa pièce d'identité, et qu'un gendarme lui a pas dit « Qui tu es ?» Il lui a dit « Et si tu meurs, comment on saura qui tu es ?» C'était ça, les années 90. Si tu meurs dans ce bus, qu'on ne retrouve que des têtes, il faut qu'on sache que c'est toi. Depuis, pour moi, les pièces d'identité servent à nous identifier si on meurt. Alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter à mes enfants? Je vais laisser l'école leur raconter. Je pense que c'est mieux. À l'école, ils travailleront bien et ensuite, ils choisiront ce qu'ils veulent faire. Ils verront par eux-mêmes. Ils se feront leur propre avis. L'histoire, je leur raconterai ce qu'il faut savoir. Mais je leur raconterai plus tard, quand ils seront plus grands. Je leur dirai surtout de suivre leur passion. Si ça compte pour toi, mon fils, je veux t'aider. C'est quelque chose que j'avais pas, moi, quand j'étais petite, ce côté humain. Je leur dirai aussi, quand plus tard tu vivras avec quelqu'un, si tu te disputes, que tu aies fait quelque chose de bon ou de mauvais, sois honnête, dis la vérité. Des choses comme ça qui t'aident dans notre société. Comme on dit, je leur donne des outils pour la vie qui leur serviront qu'ils vivent en Inde ou en Algérie. Rien d'autre.
Si les Choupa Choups ne sont pas vendus là où Zohar et sa famille font leurs courses, c'est parce que dans les années 80, les premiers symptômes de la crise économique sont apparus. Les pénuries obligent les gens, souvent les enfants, à faire la queue pendant des heures pour acheter un produit alimentaire. Et à la seule condition d'en acheter un autre avec, même s'il n'en avait pas l'utilité. Par exemple, pour acheter de la farine, on se retrouvait en plus avec une chaîne de vélo. À partir de ce moment-là, l'économie est devenue complètement dépendante des hydrocarbures. La dette extérieure a explosé. La chute des prix du pétrole oblige l'Algérie à accepter les réformes économiques imposées par le FMI. À la fin des années 80, une crise politique s'ajoute à la crise économique. S'ensuit une période de grande violence dans les années 90, qui va durer jusqu'aux années 2000. On l'appelle « décennie noire ». Dans le prochain épisode, Célia, Dounia et Hakim nous racontent comment on apprend à vivre avec la violence.
Comment tu vis avec la peur ? Eh bien, t'apprends à vivre avec la peur. Et tu n'en parles pas. T'en parles pas. Parce que tout le monde a peur.